Merci Olivier, je suis vraiment très content d'être ici ce soir et le fait que vous êtes autant pour l'archéologie, bravo, hein, ça, franchement je suis vraiment touché. Alors, pour que je prenne ça, en fait je ne suis pas un spécialiste d'archéologie dans le sens que je n'ai jamais pris même un cours d'archéologie, ni à la fac, ni au lycée, ni au collège. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2015, mon beau-père m'a offert un voyage en Israël. Et je crois que c'est 2015, c'est quelque part là. C'est l'arabe printemps est tombé et donc on a dû annuler le voyage. Donc, gracieusement, il m'a donné tout l'argent pour ce voyage. Il a mis ça dans mon compte en banque. Donc, 2 ans après, j'ai dit à mon fils, hey, tu vas aller en Israël, c'est papy qui va payer. Donc, c'était vraiment incroyable. On a fait juste un voyage de tout le pays. Et après, on a découvert un vol Bordeaux-Tel Aviv pour 100 euros. Donc j'ai dit à ma femme, si on prend pas ce vol, peut-être c'est un péché. Elle n'était pas aussi convaincue que ça, mais bon, 100 euros, ça va. Donc, la prochaine fois, j'ai amené mon fils. Et là, c'était début juin. Et on a regardé dans une magazine qui s'appelle l'archéologie biblique, qui avait des recherches des fuites archéologiques en Galilée. Donc j'ai dit à mon fils, écoute, on va y aller. Donc, j'ai dit d'abord à mon fils, est-ce que ça t'intéresse qu'on passe au moins un jour sur le site? Il dit oui, papa, ça va. Bon, il n'y avait pas trop de choix, mais il a dit oui quand même. Et j'ai dit, écoute, on va y aller. Si c'est nul, on va dire merci beaucoup, peut-être à demain. Et ensuite, on fait le voyage dans d'autres endroits. On a passé 5 jours incroyables. Alors, le problème, c'est le travail commence à 5 heures du matin. C'est juste avant le lever du soleil. Donc, bon, on était obligé de se lever assez tôt pour être sur le site. Mais les choses qu'on a découvertes, c'est des choses incroyables. Alors, donc, 3 hommes là, 2 Américains, 1 Israélien. Alors, à votre gauche, c'est James Strange. Alors, je crois qu'il faut que je bouge un peu pour ne pas bloquer ça. Alors, pour ceux qui parlent anglais, oui, son nom de famille, c'est étrange. C'est James Strange. C'est le fils d'un archéologue qui a fait des découvertes incroyables en Israël. Et donc, moi, j'ai passé 4 ans avec lui, où son boulot, c'est d'apprendre les novices comme moi comment travailler dans un site archéologique. C'est quelqu'un qui, en principe, je crois que c'est un chrétien. C'est pas tout à fait certain, son témoignage est un peu flou, mais c'est quand même quelqu'un qui est passionné de Jésus et la vie de Jésus en Galilée. Là, au milieu, là, c'est ça marche pas. Au milieu, c'est bon, c'est pas grave. Au milieu, c'est Mordecai Avatim. C'est un Israélien, un Juif athée. Il est devenu un ami très proche depuis le commencement de la guerre après le 7 octobre. Je garde contact avec lui minimum une fois par mois. Ce qu'il vit est très très compliqué. Il a beaucoup de compassion, il a beaucoup de cœur envers les Palestiniens, mais en même temps il vit presque quotidiennement les alertes à la bombe. Donc, je l'ai écrit il y a une semaine. Il dit, bonjour Marc, je suis dans mon bunker et ça va très mal. Et le problème, c'est qu'il y a des fausses alertes tout le temps. Mais là aussi, c'est quelqu'un qui m'a vraiment appris des choses, comment chercher dans la terre et comment trouver des choses. Et après, c'est Thomas Mokola. C'est lui qui travaille beaucoup dans la ville de, et j'ai un trou de mémoire. Jésus a transformé de l'eau dans Cana. Excuse-moi. Oh là là. Ah, ça commence très bien. Hein. C'est l'âge. Et donc, c'est vraiment grâce à ces 3 hommes que j'ai découvert l'archéologie biblique. Donc, juste quelques photos. Bon, après, je vais vous montrer quelques photos de moi aussi sur le site. Là, c'est une ancienne synagogue qu'ils ont découvert. Dans le village là, ils ont découvert un four pour fabriquer les lampes à huile. Donc j'ai 2-3 choses que je vais vous montrer avec des lampes à huile. C'est pas les originaux, hein. Ça c'est quelque chose que j'ai acheté dans un magasin à Jérusalem. Après, ils ont beaucoup d'analyses des morceaux, des éclats de poterie. Donc à la fin de chaque année, ils jettent à peu près 5000 pièces. Et là aujourd'hui, ces pièces m'appartiennent. Donc quand vous passez devant la douane, il faut un document qui dit « J'ai tout piqué et ça m'appartient ». Donc, après, si vous voulez, j'ai mis les morceaux sur les petits morceaux de papier là. Touchez, regardez, mettez pas trop dans vos poches. Mais surtout, il faut pas trop mélanger, parce que je sais où chaque chose est venue. Donc, le but ce soir, c'est de prendre un lieu et l'application spirituelle de ces faits archéologiques. Donc, honnêtement, je n'ai ni la capacité ni le cerveau de vous présenter vraiment un discours académique sur l'archéologie. C'est pas mon truc. Mais ce qui m'intéresse, c'est de trouver les objets et de voir comment Jésus a parlé d'une chose, comment le roi David avait appliqué une chose. Donc c'est vraiment spirituel, ce que je vais vous montrer. Donc, la vie de Capernaum. Alors, la Bible dit, Jésus, il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac dans le territoire de Zabulon et Nephtali. Alors, c'est là où Jésus habitait pendant son âge d'adulte et pendant qu'il faisait son ministère. Donc, Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Et aujourd'hui, vous pouvez visiter carrément le synagogue. Vous pouvez marcher là-dedans où Jésus a prêché, Jésus a enseigné. Alors donc, encore juste un détail sur Capernaum. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont Pierre habitait dans cette ville. Il vit là la belle-mère de celui couché avec la fièvre. Donc aussi, la belle maman de Pierre habitait dans cette ville. En principe, ils ont aussi trouvé cette maison. Donc, Capernaum, c'est en haut, légèrement à droite de où ça dit mer de Galilée. Et c'est un endroit magnifique. Donc, si vous avez jamais visité Israël, si vous avez jamais visité le lac de Galilée et cette ville, c'est parmi mes lieux le plus préféré de ce pays. Bon, le problème, j'ai dit ça avec chaque lieu, mais bon, c'est quand même incroyable de visiter ce lieu. C'est là, la synagogue, en plein milieu, ce qui ressemble un peu trop à un ovni, c'est un peu bête ce qu'ils ont fait, mais ils ont couvert là la maison de Pierre, mais on voit les ruines de cette ville de Capernaum. Encore, donc, la ville, la synagogue, la maison de la maman de Pierre. Et en fait, en 1838, il y avait un Américain, Edward Robinson. Il est entré dans ce lieu et c'est lui qui a redécouvert la synagogue. Mais il ne savait pas exactement quelle était cette ville. Et donc ensuite, à peu près 50 ans après, il y avait Charles Wilson, c'est un Anglais qui est entré. Et là, il a dit, moi je suis persuadé, ici c'est la ville de Capernaum. Donc, voilà ce qu'ils ont découvert. C'était en ruine totale. Il y avait les pierres partout, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose. Bon, voilà la synagogue, ce qui restait, le lac de Galilée. Encore, bon, une partie de synagogue quand ça a été refait par les archéologues. Et encore là, la synagogue, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on voit là aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut comprendre de cette ville de Capernaum, c'est au bord du lac de Galilée qui est en forme de bol. Donc, quand on va à Capernaum, on descend. Et on descend de très loin. Et autour, on a les collines, et sur les collines, il y a beaucoup d'oliviers. Donc, c'est une énorme fabrication d'olives qui sont là, c'est partout. Et quand on a les olives en Israël, qu'est-ce qu'on fabrique? Bah, de l'huile, c'est assez logique. Donc, encore au bord du lac de Galilée. Il y avait aussi, deuxième chose, ici, bon, chez moi, on dit la Via Maris, c'est la A10 d'Israël. Mais je ne suis plus à La Rochelle, donc c'est le A6, ça vous parle, ou A7? 6, 7, bon, je suis pas du sud, hein, ouais. Mais c'est, en fait, ça passait direct, donc c'est un chemin qui allait de l'Égypte jusque la Turquie, jusque l'Iran, et même au temps de Joseph, au temps d'Abraham, jusqu'au temps de Jésus, ça passait par là. Donc, on a la fabrication de l'huile. On a l'autoroute qui est là, donc il y avait beaucoup de fabrication, et c'est Capernaum qui est devenu une ville de commerce. Alors, dans la ville, on trouve beaucoup, beaucoup de meules, énormément, qui étaient là, forcément, pour créer, fabriquer l'huile d'olive. Donc on voit, mais partout, c'est impressionnant. Alors, juste un détail, je n'ai pas le temps ni l'intention d'aller plus loin, mais l'objet blanc qui est là, en anglais, ça dit « olive press ». Pressoir d'olive. Mais en hébreu, ça s'appelle un Gethsemane. Et ça dit quelque chose pour la ville de Jérusalem, où il y avait aussi un jardin de Gethsemane, qui était trouvé. Et c'est assez certain, on connaît l'endroit où Jésus priait avant sa crucifixion. Donc là, c'est tout un autre enseignement, mais c'est quand même impressionnant. Hein. Alors donc, mais partout dans la ville de Capernaum, on trouve ces meules. Et voilà comment ça s'est fait à l'époque. Alors, tout ça, c'est essentiel pour comprendre une histoire de la Bible. Dans Matthieu chapitre 17, ça dit « lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum ». Bon, je continue pas dans le verset, c'est pas le but, mais c'est-à-dire l'histoire qu'on va suivre, ça vient de cette ville avec énormément de meules et les pressoirs à huile. Alors, ça dit, à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Quelle question humble, hein? Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Ensuite, verset 4-5, c'est pourquoi celui qui se rend humble comme ce petit enfant. Alors, petite parenthèse, j'en ai trois de ces petits enfants qui sont passés dans ma maison. Le nombre d'enfants humbles dans ma maison pendant toutes ces années, zéro. Zéro. J'ai jamais croisé un enfant humble. Cher papa, pourriez-vous me donner le moindre de bonbons pour que je puisse... Non, je suis désolé, mais... Et d'ailleurs, c'est pas exactement ça que le mot veut dire. Humble, ça veut dire en bas. C'est-à-dire, à l'époque même, un enfant, hey, dégage, tu nous énerves, va dans le coin là. Humble, comme un enfant n'est pas toujours bien considéré parce que c'est un gamin, hein, il nous énerve. Alors, il faut être comme ça pour aller au ciel. En bas, hein, avec humilité. Si ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui qui m'accueille moi-même. Et là, on arrive au vif du sujet. Hein. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspende à son cou. Jésus, il est où quand il dit ça? À Capernaum. À gauche, à droite, avant, derrière, que des meules. On suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. C'est là. Hein? Jésus dit ça et la mer est là. Alors, moi je vous pose deux questions. Qui est le petit enfant? Si vous ne convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Je ne suis pas bête, il y avait un petit enfant là. Donc, sûrement Jésus parlait de ce petit enfant, mais il est allé plus loin que ça. Qui est le petit enfant dans ce passage? C'est vous et moi. C'est les enfants de Dieu. Alors, très bien. Qu'est-ce qui se passe si nous blessons ou nous offensons un enfant de Dieu? Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ses petits enfants qui croient en moi, il vaudrait mieux que pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Alors, on va faire un petit exercice, d'accord? Regardez à droite. Vous voyez qui est là? Regardez à gauche. Qui est là? En principe, c'est un enfant de Dieu. Alors, le souci, c'est, vous tournez, c'est votre mari. Tu te souviens ce qui s'est passé dans la voiture en venant à l'église? Et moi, je te dis toujours, t'as tort, hein. Et il a fallu tourner à gauche et toi, tourner à droite et, oh, mais tu m'énerves! Il vaut mieux mettre une meule autour de votre cou, de blesser ce chrétien à gauche, ou à droite. Donc, apparemment, Dieu, il prend ça de très sérieux. La façon on se traite dans l'église. Apparemment, pour Dieu, c'est ultra grave. Alors, je vais vous montrer un exemple. Alors, en haut, un peu à gauche, c'est un cher ami qui s'appelle Samuel Perez. Avec Sam, on avait amené 6 jeunes en Israël. Je crois que c'est octobre 2023, si je me souviens bien. Mais c'était pour le voyage terre de mission. Et pendant ce voyage, j'ai amené ces jeunes dans la ville. Premier jour, on entre dans la ville de Capernaum. Je raconte cette histoire, mais en live. Meule, Meule, lac, votre coup. Alors les jeunes, s'il vous plaît, il faut éviter les disputes pendant ce voyage. Dieu y prend ça de très très sérieux. Devinez quand il y avait la première dispute. 3 heures après, donc 3 heures après, il y avait un seul garçon dans le groupe et 5 filles. Donc c'était dessiné dans le plan de Dieu, je crois, mais 3 heures après, oh, ça clashait fort. Et moi, j'ai rigolé. J'ai dit, je vais chercher les meules, parce que vous deux là, franchement, hein, c'était pas un qui avait raison, les deux avaient tort, et vous voyez le souci? On entre tellement facilement en dispute, on traite parfois l'autre chrétien d'une manière indigne, mais moi, j'ai vécu les choses dans l'église, et malheureusement, quelquefois, j'ai fait des choses dans l'église, où heureusement, Jésus n'est pas venu pour dire, Marc, tu mets ça sur ton cou. Parce que je sais, j'ai largement mérité ça. Et là, donc, ça rend l'histoire, mais vivante. On voit combien Dieu veut qu'on évite ces types de problèmes. Ensuite, on va aller à Jérusalem. On va voir la tombe de David. Alors, pour ça, je me tourne vers un bon français, Raymond Veil. Alors, Raymond Veil était archéologue en Israël pendant plusieurs décennies. Vers 1923-24, il est parti pour faire encore des recherches à Jérusalem, mais cette fois, en fait, il voulait chercher le tombeau de David. Alors, Raymond Veil n'était pas du tout un croyant, hein. C'est un juif convaincu, mais il n'acceptait pas Jésus comme Messie. Et donc, il est parti dans un endroit, il croyait, était le tombeau de David. Et c'est basé sur 1 Roi, chapitre 2, verset 10. Lorsque David mourut, on l'enterra dans la cité de David à Jérusalem. Donc, malgré tout, Raymond Veil, en fait, il avait une pelle dans une main et la Bible dans l'autre. Donc, à son honneur, il prenait la Bible comme un livre sérieux, un livre d'histoire. Alors, quand je dis la cité de David ou la vieille ville de David, souvent, on pense à ça. Les quartiers, le mosquée, l'endroit là où il y avait autrefois le temple. Mais ça n'a rien à voir avec ce que la Bible présente comme la ville de David. En fait, la ville de David existait avant toute cette partie. Donc, la lettre C, c'est la ville de Jérusalem aujourd'hui. La lettre A, ça, c'est la ville de David quand David a fait la conquête de Jérusalem. Donc, aujourd'hui, c'est une partie de la ville qui est sous terre. Il y a un quartier arabe qui couvre tout ça. Donc, c'est un site archéologique, mais il faut descendre pour voir tout ça. Donc, là, c'est une maquette qui montrait cette ville de David à l'époque de Jésus. Alors, Raymond Veil, il a fait un plan, il a montré la ville de David là en bas, et il a dit, je vais trouver le tombeau de David. Donc, il a pris la Bible dit, la porte de la source fut reconstruite par Shalom, il répara aussi les murailles à proximité de l'étang de Siloé, entre le jardin du roi et l'escalier qui descend de la cité de David. Donc, il a trouvé l'étang, il a trouvé ça. Le verset après dit, plus loin, Néhémie travaillait jusqu'au bord du cimetière de David. Donc, s'il peut trouver ce lieu-là, il va trouver le tombeau de David. Jusqu'à l'étang artificiel et jusqu'à la caserne de la garde royale. Donc, il est dit, si je peux trouver la garde royale et cet endroit-là, forcément, il y aura un tombeau et au moins une forme de cimetière de l'époque de David. Donc, il a dit, c'est là. Plutôt là. Alors, Raymond Veil était un bosseur. Il travaillait comme un fou furieux. Donc, c'est lui, là, et son équipe. Donc, il a embauché presque 1000 Palestiniens. Et l'idée, c'était d'enlever un peu de la terre pour trouver ce lieu. Et quand je dis un peu, vous allez voir. Alors, juste pour vous aider. Là, c'est la ville de Jérusalem aujourd'hui. Donc, on a la mosquée Al-Aqsa avec le dôme de rocher. Donc, c'est l'esplanade. Ensuite, c'est la sortie de la vieille ville. Et la cité de David va jusqu'à la flèche rouge là. Et c'est là, il commence à enlever la terre. Donc, c'est là, il a pensé peut-être, probablement même, c'est le tombeau de David. Et c'est la même photo, mais à l'époque de Raymond Veil. Alors, quand il commence ce boulot-là, tout ça était couvert avec toute la terre qui est là-bas. Il a enlevé presque 50 millions de tonnes de terre. C'était un travail de fou. Et voilà ce qu'elle a exposé. le tombeau de David aujourd'hui. Donc, quand on visite la cité de David, on peut entrer dans ce site-là, on peut monter jusque le tombeau, et on peut entrer là-dedans, et c'est vide. Et je vous explique pourquoi. Alors, janvier dernier, j'ai eu le privilège d'amener ma fille qui fait ses études bibliques à Orange. On a fait un petit voyage en Israël pour une semaine. Donc, j'ai amené ma fille là-bas. Et en fait, quand on est entré, on a lu un passage de la Bible. On a lu dans les psaumes 16, versets 9 et 10. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit est dans l'allégresse. Même mon cœur reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Alors, on sait ce qui se passe à l'instant même de la mort. On commence à disparaître. Hein. Donc, j'ai dit à ma fille, « Ah ben, tu vas voir, le corps de David n'est plus là, grâce à ce verset. » C'est pas exactement vrai, hein. En tout cas, on est monté sur l'échelle. Alors, l'échelle là, je crois que ça date du temps de David, parce que moi j'ai pris le premier pas. Oh, bon, j'avoue, hein, je ne suis pas exactement un garçon petit, mais crac, crac, crac. Oh, ça va être génial. Donc, il a fallu monter presque 2 mètres. Donc, j'ai dit à ma fille, écoute, prends mon portable et quand je tombe ou si je tombe, t'appelles 17, 19. On savait même pas là, en Jérusalem. Et on est entré. Et on a trouvé même la poubelle. C'est vide. Alors, qu'est-ce que David dit? Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Alors, pourquoi c'est vide? David est ressuscité? Non. C'est quoi l'explication? Ça, c'est étrange, hein, qu'on trouve l'endroit qui est probablement le tombeau de David. Et c'est vide. Ben, en fait, il faut trouver la réponse dans les actes des apôtres. Alors, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alors, Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Homme de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Israélites, je saute quelques versets, mais Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini de la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire des hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Et c'est là l'explication de cette phrase de David. En effet, David a dit à propos de lui. Ce que David a dit dans le psaume 16, c'était pas sur lui. Il parlait une forme prophétique. Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse, même mon cœur reposé avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton saint connaisse la décomposition. Il parlait pas de lui-même, il parlait de Jésus. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Alors, mes frères, qu'il soit permis de vous parler en toute franchise au sujet de la patriarche David. Il est mort. Il a été enseveli. Et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Il savait où David était enterré. C'est là. Mais il continue. Or, il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour faire asseoir sur son trône. Et là, verset 31-32, il va parler de 3 points. Donc, j'ai divisé ça dans le verset. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévu. Il est annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts, que son cœur ne connaîtra pas la décomposition. Ce que Jésus, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils le dirent à Pierre et aux autres apôtres frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Et ça se termine. Ceux-ci acceptèrent sa parole, furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Mes amis, pourquoi le tombeau de David est vide? J'ai aucune idée. Son corps était volé? J'ai aucune idée, hein. Mais moi, je sais pourquoi le tombeau de Jésus est vide. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, 3, 4, je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Là, il existe à Jérusalem une église, c'est l'église de Saint-Sépulcre. Quand on entre dans l'église, il est les tombeaux vides, parce que l'église a été construite sur le site où Jésus était enterré. Il n'y a plus rien là. Alors, à Jérusalem, il y a au moins deux endroits avec des tombeaux vides. Ça, c'est un fait archéologique. Ils ont découvert ces choses-là. Pourquoi un de ces tombeaux est vide? Parce qu'un jour, il y avait des anges qui ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Ça, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Il y a la preuve, un tombeau vide. Bon, le tombeau de David, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Le tombeau de Jésus, j'ai les récits de la Bible qui m'indiquent, Jésus a été ressuscité. On va continuer dans la vie de Jérusalem, on va parler des barrières, les barrières là. Alors, encore un bon français, Charles-Simon Clermont-Ganneau, qui est allé à Jérusalem vers 1870, quelque part là. Et en fait, c'était un archéologue qui cherchait pas forcément dans les endroits très précis, mais il cherchait un peu partout. Donc un jour, il était invité, j'ai avancé trop vite, d'aller sur l'esplanade, là aujourd'hui c'est une mosquée musulman, le dôme du rocher c'est là où les musulmans ils pensent que Mohammed est parti en cheval blanc pour son voyage de nuit. C'est là aussi qu'il se trouvait le temple de Salomon et le temple de Hérode. Et donc au milieu là, à gauche il y avait à l'époque de cet archéologue un cimetière. Et là, il voulait juste faire quelques recherches pour voir s'il pouvait trouver des tombeaux de certaines personnes ou d'autres vestiges. Et il est tombé sur cette pierre-là. Alors, c'est écrit en grec, hein. Et ce que ça dit, c'est, en fait, c'est l'inscription de Soreg ou l'inscription de la balustrade du temple. Alors, voilà ce que ça dit. Défense à tout étranger de franchir la barrière et de pénétrer dans l'enceinte du sanctuaire. Quiconque aura été pris sera lui-même responsable de la mort qui s'ensuivra. Bon, c'est assez grave, hein. Alors, ça parle de quoi? Alors, il y avait des historiens de l'époque de Jésus qui ont parlé de ça. Il y avait une barrière juste devant l'intérieur du temple où les non-juifs n'avaient pas le droit de franchir. Donc, on pouvait aller juste devant, on peut prier, mais vous allez trop loin et c'est la fin de votre vie, hein. Alors, il y avait donc, ça c'est Flavius Joseph, mais il va citer un empereur romain. Il dit, n'est-ce pas vous qui avez intercalé des stèles gravées proclamant que personne ne doit franchir ce parapet? Ne vous avons-nous pas permis de mettre à mort ceux qui le franchiraient? Donc c'était connu à l'époque de Jésus, même par les historiens. Alors, ça parle de quoi exactement, cette barrière? Je ne sais pas pourquoi j'avance trop là, mais ok, c'est bon. Une histoire connue dans Luc chapitre 2, quand la période de la purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Donc, c'est-à-dire le bébé Jésus qui va être amené à Jérusalem. Alors, Jérusalem au temps de Jésus. Ils sont venus du sud, donc certainement, ils sont allés juste ici, dans la piscine de Siloé, où éventuellement dans Jean 9, Jésus va guérir un homme aveugle. Il monte jusqu'au temple, et là donc la fameuse balustrade qui est toujours là. Et la Bible parle de quelque chose qui s'est fait entre un homme pieux et Marie. Donc Luc chapitre 2. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce qui prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à tes promesses, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant pour les Juifs. » Non, je sais lire le français. Hein. Tous les peuples, y compris les non-Juifs et les Juifs. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Quand il a dit ces mots-là, la barrière était là. Vous allez trop loin, c'est fini. Qui a cassé la barrière? Jésus. Alors, aujourd'hui, dans cette salle, je le dis et après on tourne la page, mais je constate que certaines sont plus bronzées que moi. On n'a pas tous la même peau, hein. Certaines sont très pâles et certaines sont très bronzées. Et alors, ça fait quoi? Un millimètre de peau? Et après, c'est rien. Mais pourquoi pour nous c'est rien? Parce qu'on est tous les bons humanistes et je vous aime tous, je suis très, très humain. Non, parce que Jésus a cassé la barrière. On n'a plus le droit de juger ni par la peau, ni par les origines, et surtout ni par l'accent. Alléluia! Non, au ciel, je vais parler un français à niveau... ça va être incroyable. Bon, ou sinon je vais parler hébreu, je sais pas. Alors, Paul, il parle de ça. Hein. C'est pourquoi vous qui portez dans votre cœur la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur leur cœur et par des hommes. Rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus, vous qui êtes autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix. Lui qui, des deux groupes, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Alors, il dit la haine, mais à mon avis, Paul, il connaissait bien le temple. Hein. Il y avait bien un mur. Vous n'êtes pas juif? Ben, tant pis pour vous. Qui n'est pas biblique. Hein. C'était jamais une pensée de Dieu, mais qui est devenue une pensée de ces personnes-là. Dans l'Église, on ne peut jamais faire comme ça. Vous mettez les barrières entre vous et d'autres. Pour des raisons d'origine, des raisons de langue, peu importe. Vous êtes en violation de la parole de Dieu. Nous n'avons jamais le droit de faire le moindre des barrières à cause de ces choses-là. Et aujourd'hui, ce soir, vous êtes la preuve que vous appliquez ces versets-là. Alors, je vais sauter quelques slides parce que ça tourne le temps. Et on va visiter Kirby de Caïphe. Alors, quand j'ai fait ce voyage avec Samuel et les jeunes-là, c'est le seul endroit où j'ai pleuré. Bon, et moi je pleure, hein, y a aucun problème, mais là, j'étais profondément touché, parce que c'est une histoire qui me touche personnellement. Alors, Kirby Caïphe, l'étranger. Alors, la ville de Kirby Caïphe se trouve à 40 kilomètres de Jérusalem, dans le sud-ouest, et quand vous y allez, vous trouvez vos amis, les brebis et les chèvres, et pas grand-chose en dehors de ça. Mais à une époque, il y avait une ville qui était là. Hein, c'était la ville de Kirby Caïphe, Et ça, c'est le nom arabe. Alors, la ville portait un autre nom. Alors, donc, encore un peu cette ville, qui était un site archéologique pendant 12, 14 ans, quelque part comme ça. Donc, tout ça, ça a été dévoilé. Il montre les chambres, les maisons, des choses de la ville. Et en fait, donc, cette ville a vécu un moment extraordinaire dans la Bible. Dans 1 Samuel chapitre 17, versets 1 à 3, les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soco, la ville qui appartient à Juda. Ils s'installèrent leur camp entre Soco et Azeka, à Éphèse-Damin. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils s'installèrent leur camp dans la vallée d'Ela. Ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle en face. La vallée les séparait. Alors, ça c'est le contexte de cette histoire. Alors, quand les Philistins confrontaient les Israélites, c'est l'histoire de David et Goliath. Cette ville a vécu la bataille, le combat de David et Goliath. Donc, on a Azeka, Soko qui est cité, la ville de Gath où David est né, la vallée de Ela où David va battre Goliath, et Kerbi Kaïfa. Alors, mais quand on a lu le passage, déjà la Bible n'est pas en arabe, c'est en hébreu, mais c'est où cette ville, Kerbi Kaïfa? C'est dans ce verset ici. Donc c'est suite à la victoire de David, la Bible dit, voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent à la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et les poursuivèrent jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent sur le chemin de Charim jusqu'à Gath et Écron. Et c'est là qu'Herbie Caïphe est voulu. Quoi? Alors, Charim, en hébreu, ça veut dire double porte. Et quand ils ont fait des recherches à Kerbi Kaïfa, ils ont trouvé deux portes. Alors, on dit, c'est ça ta preuve, Marc? Et combien de villes n'ont pas deux portes? Beaucoup. La vaste majorité autour de ce site, une seule porte. Pourquoi? C'est pas une grande ville. Deux portes, il faut deux systèmes de défense. Alors, Jérusalem, il y a plein de portes, parce que c'est la grande ville. C'est insensé, ça, c'est même une bêtise d'avoir fait deux portes là. Donc, quand ça dit Charim, on fait un cercle autour de cette ville à presque 30 kilomètres. C'est la seule ville avec deux portes. Donc, c'est fort probable que c'est là on trouve Kerbi Kaïfa. Mais c'est même pas ça qui est important. Donc, je vous montre quand même la première porte, la deuxième porte. Mais comment ils savaient quand même c'est une ville juive de l'époque de David? Deux choses. Les artefacts, donc en fait, ils ont trouvé plein de poteries, beaucoup de poteries, ils ont trouvé des outils qui datent par la composition et aussi les dessins du temps de David. Alors, Nathan, je te cite pas, mais Nathan, il m'a demandé ce que je pense de l'archéologie, j'ai dit, le problème c'est je suppose. Il dit, exact, c'est pour ça que je n'aime pas l'archéologie, ou quelque chose à peu près comme ça, hein. Mais c'est ça, hein, j'étais pas là. Donc je dis toujours, quand vous trouvez la brosse à dents à Jésus et l'iPhone de Jésus, il y a quelque chose qui va pas là, hein, parce que Jésus avait un Android, donc quelque chose comme ça. Hein. Par contre, même aujourd'hui, si on trouve les assiettes qui datent de 1920, on peut quand même vérifier. Parce que mamie a acheté les mêmes assiettes, donc on fait les comparaisons, le dessin et tout ça. Donc, ils avaient quand même une bonne notion de la date de ces choses-là. Donc, ils ont dit, tout ce qu'on trouve, ça date autour du temps de David. Mais après, ils ont trouvé quelque chose même plus fort. Les eaux et les idoles. Alors, autour de Kerbi Kaïfa, il y a 5 villes des Philistins. Donc, dans 2 de ces villes, ils ont fait à Gath et après Ascalon. Ils ont fait des recherches archéologiques. D'abord, ils ont trouvé les eaux. Alors, pour ceux qui lisent l'anglais, ça veut dire cochon et pelvis, hanche. Alors, ils n'ont pas trouvé juste un cochon, ils ont trouvé des cochons, mais des milliers et des milliers. Pourquoi? Parce que, comme moi, les Philistins, Ils adorent le barbecue, hein. Des ribs, ah, ah. Ils ont fait le même type de recherche à Kirby Kaifa. Vous savez combien de petits jolis cochons ils ont trouvé? Zéro. Rien. Alors, bon. Ensuite, ils sont allés dans la ville de Gath. Et là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Les idoles. Alors, il est fort probable que c'est aussi la même taille que la vache ou la vachette qui était faite par Aaron au temps de Moïse. C'est comme ça, hein. C'était pas un truc énorme. Donc, dans l'école de dimanche, ça montre toujours 3 mètres, c'est énorme. Peut-être. Et ils ont trouvé aussi un dieu singe. Alors, si ça, c'est ton dieu, bonne chance. Dans la vie de Kirby Kaifa, combien d'idoles ont été trouvées? Zéro, rien. Ce qui est très logique. Mais la chose qui est frappante qu'ils ont trouvée, c'est l'ostracan de Kirby Kaifa. Alors, c'est quoi un ostracan? Alors, c'est un tesson de poterie ou un éclat calcaire utilisé comme support d'écriture. C'est un post-it au temps de David. C'est vraiment post-it, hein. Et c'est ça. Alors, il y a 5 semaines là maintenant, j'étais avec ma fille là-bas, on a visité ce lieu, et j'ai trouvé les post-it au temps de David. Alors, je sais, c'est en miniature, donc ils n'ont jamais vraiment fait les vases comme ça, mais bon, c'est un cadeau de ma femme, donc il faut que j'accepte, hein, donc. Alors, Jacob, le petit gamin de la famille, il prend la grosse vase comme ça, il trébuche, boum, ça éclate en 1000 morceaux. Donc déjà, il est puni, mais après, papa, il ramasse tous ces morceaux. Pourquoi? C'est un post-it. Ils ont trouvé des centaines de choses comme ça. On écrit lundi, il faut faire des courses. Mardi, il faut faire des courses. Là, ils n'ont pas de magasin, donc il faut faire les courses chaque jour, hein. Mais là, ce qu'ils ont trouvé, c'est un post-it énorme. 5 choses. Il faut louer le Seigneur. Alors, imagine que demain, il y a un archéologue qui commence à regarder et chercher dans vos poubelles. Hein. Il trouve vos post-it. Quelle est la première chose que vous mettez sur votre post-it pour la journée? Il ne faut pas tuer les enfants, je crois. Les courses, normal, hein, c'est pas un péché d'avoir les post-it avec les choses à faire dans la journée. Un bon juif, un enfant de Dieu a mis dans son post-it, il faut louer Dieu. Il faut plaidoyer pour les enfants, pour les pauvres, pour les veuves. Il faut rétablir les pauvres par le pouvoir du roi. Il faut protéger les pauvres, les esclaves et soutenir les étrangers. Alors, à Paris, au musée de Louvre, il y a le code Hammurabi. Ça dit la suite sur ce code-là. Donc, c'est une ancienne loi. Pour que le fort n'opprime pas le faible, pour faire justice à l'orphelin et la veuve. Et le nombre de fois que l'étranger est mentionné, zéro. Dans la Bible, on parle des Hittites. Dans Josué, chapitre 1, verset 4. Dans un écrit des Hittites, ça dit tout simplement, l'étranger, tu peux le tuer. Autour d'Israël, il n'y avait aucun respect pour l'étranger. C'est l'ennemi. On se méfie de lui. Qu'est-ce que la Bible dit de l'étranger? Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et de tout peuple dira Amen. Dans Exode, tu ne maltraiteras pas l'étranger. Tu ne l'opprimeras pas. Car vous avez été étrangers en Égypte. Même chose dans Deutéronome 24, 17. J'avance un peu pour garder le temps. Et finalement, on arrive avec ce verset dans Romains 12, 13. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Très bien, hein. Je vous invite après pour prendre le café. C'est l'hospitalité, mais t'es pas un étranger. Le problème, c'est qu'on a mal interprété ce mot-là. Alors, tout court, l'idée de l'hospitalité, c'est action de recevoir chez soi une ou plusieurs personnes, mais aussi, dans le même dictionnaire, ça m'a dit, accueil, hébergement des pèlerins, des voyageurs, des indigents dans la maison hospitalière. Mais le mot biblique, ça vient de 2 mots mis ensemble. Philo, amour fraternel, amour chaleureux, et xénos. Et si vous êtes xénophobe, vous n'aimez pas l'étranger. Et la Bible dit l'inverse. Exercer l'hospitalité biblique, je connais pas de tout cette personne. Allez, venez chez moi. on va manger ensemble. Un amour pour l'étranger. Alors, j'ai toute une explication et je vois vraiment que ça tourne. Donc, ce soir, demain matin, quand vous voulez, prenez Romains chapitre 5, verset 6 jusqu'au 10 et vous allez voir l'hospitalité biblique reflète notre salut. Lorsque j'étais un étranger, un ennemi de Dieu, il m'a dit, allez Marc, entrez chez moi. Qu'est-ce que vous pensez de ces étrangers qui sont tout autour de nous, y compris moi-même? Je n'ai pas la nationalité française, mais moi je vois et j'ai déjà beaucoup discuté avec d'autres personnes de l'Assemblée de La Rochelle. Moi j'ai aucun problème. Quand j'entre à la préfecture, quand je parle avec les gens, si je n'ouvre pas la bouche, je peux être pris comme presque français. Hein. Bon, j'ouvre la bouche et ça enlève tout, mais... Et j'ai des frères et sœurs qui sont venus de l'Asie, de l'Afrique et d'autres continents qui m'ont dit, parfois, ce n'est pas évident, mais ça c'est des non-chrétiens. Bon, ça n'excuse rien, mais c'est des non-chrétiens. Dans la maison de Dieu, est-ce que chaque inconnu est accueilli comme Dieu a fait pour moi au moment de mon salut? Et c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose. Alors, donc, je termine rapidement avec les psaumes 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, je n'ai pas mis le site parce que je vais expliquer un peu le site où j'ai découvert la clé de ce verset-là. C'est dans le village de Chikin. Alors, c'est là où j'ai amené mon fils en 2018-19, j'oublie là maintenant, mais... Alors, on a découvert, il y avait une équipe qui faisait des recherches archéologiques là depuis quelques années. Donc, on arrive et c'est là. On dit, génial. Hein, vous voyez tout le recherche archéologique. Mais en fait, bon, ça c'est après chaque année, après les recherches, ça repousse. Le mauvais herbe et tout, ça repousse. Donc, on arrive sur le site et on est là. Donc, il y avait des spécialistes qui ont tout expliqué. Avec mon fils, on a commencé à faire les recherches. Alors, avec presque chaque photo, c'est moi qui bosse et mon fils, il est toujours comme ça. Bon, c'est... J'allais dire, il reflète sa maman, mais c'est pas vrai. Hein. Je suis pas aussi méchant que ça. Hein. Alors, encore moi, mon fils. Et finalement, j'ai pris 5 secondes de pause pour dire, je suis là. Et en fait, dans cette ville, ce qu'on avait fait et ce qu'ils ont découvert, il y avait un four qui fabriquait les lampes à huile, ils ont trouvé 200 intacts. La dernière fois, j'étais là-bas, il y a 2 ans, à cause de la guerre, on a trouvé aussi un autre four, ils fabriquaient des petites bases, ils ont trouvé 400 intacts du temps de Jésus. Alors, je vais vous montrer un peu ce qui était découvert dans cette ville. C'est incroyable, tout ce qui était découvert dans la terre, là, depuis le temps de Jésus, parce que la ville était abandonnée, très peu après Jésus, parce qu'il y avait des Romains qui sont entrés et qui ont chassé les Juifs de la ville. Donc c'est presque à chaque endroit, ils commencent à creuser, boum, voilà, ils trouvent des lampes à huile. Là, ils ont trouvé, je fais une bêtise. Normalement, je cherche toujours les mots, donc c'est un moule ou une. C'est ce que j'allais dire. Hein. Non, j'étais plutôt penché vers une, mais un moule. Ils ont trouvé le moule là, encore non, et on voit le dessin, mais c'était dans la terre pendant 2000 ans. Et là, ça a été redécouvert. Alors donc le fameux four où tout était fabriqué. Donc encore les exemples des centaines de lampes à huile. Aussi dans la Bible, il parle aussi des lampes à huile au temps de David. Ce qui était trouvé dans d'autres endroits, c'est un peu plus cru, hein, c'est pas aussi beau que d'autres endroits, mais ça c'est aussi... comme au temps de David, de lampes à huile. Et là aussi, donc, il y avait... Moi, je n'étais pas là. Je fais toujours juste une semaine. Normalement, ça dure un mois. Ils ont trouvé 8, je crois... Non. Oui, 8. 8 lampes à huile qui étaient dans la terre pendant 2000 ans. Ça a été rempli de huile et allumé. Et il y avait des gens qui pleuraient. Il y avait des Juifs qui dansaient. C'était incroyable de retrouver toutes ces choses-là. Alors, il y avait un professeur qui m'a expliqué la suite, parce que là, je suis pas du tout quelqu'un qui est scientifique de cette manière-là. Il m'a parlé de ces lampes à huile et la puissance. Alors, il a dit, une bonne lampe à poche, mais vraiment quelque chose qui soit militaire, soit police, c'est 1000 lumens. Alors, moi, j'ai dit, OK, oui, si tu veux, ça me dit pas trop, mais ensuite, il a dit, donc, une ampoule normale, c'est entre 500 et 700 lumens. Il a dit ensuite, bougie pour l'anniversaire, sauf que quand on devient un peu plus âgé, là, on voit que ça... Mais 12, 5 lumens, et pour ces lampes, c'est que 8. Alors, c'est-à-dire, ça peut éclairer en pleine nuit 2, maximum 3 mètres devant vous. C'est pas grand-chose, hein. C'est pas ça, hein. Un portable comme ça, ça n'a rien à voir avec une lampe. C'est tellement plus puissant. Et on dit, merci Marc pour l'info, hein. Je vais noter ça et je vais oublier ça aussitôt. Sauf, il y a un verset qui va avec ça. Alors, mettez-vous dans le contexte de David qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, quand moi j'interprète ce verset-là, je dis, ah oui, David, ah oui, je, non. Une lampe à mes pieds. Il connaissait que ça. Il n'avait pas trop de connaissances ni d'iPhone, ni de Samsung, ni d'autres choses. Alors, il faut dire que David écrivait ça dans le contexte de son époque. Alors, dans ce passage, il va parler d'instructions, de décrets, de prescriptions, commandements, lois, promesses, jugements. Il va parler d'énormément de sujets qui touchent la Bible. Mais il va dire deux choses. La Bible est une parole qui vient de Dieu, qui est comme une lampe qui donne de la lumière. Alors, une lampe qui guide mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Comme ça. Alors, voilà. De l'huile, ma lampe. De l'huile d'olive, made in China, ou je sais pas. Hein. Alors, et honnêtement, j'espère que ça marche. Hein. Alors, vous n'avez que ça pour vous guider ce soir pour marcher jusqu'à la maison. Bonne chance. Sauf, ça va marcher. Ah oui, si tu veux, oui. Pour David, ça c'est la parole de Dieu. C'est... Voilà. Alors, franchement, je sais que vous êtes là, mais... C'est une lampe qui guide mes pas, une lumière qui éclaire ma route, mais qui me donne quoi? 2-3 mètres. Vous voyez, la Bible ne dévoile pas votre soirée. J'espère et je prie que tout le monde rentre chez vous sans accident. Mais bibliquement, j'ai aucune idée. Mais je sais ce que Dieu va faire pour vous en cas d'accident. Il va éclairer votre chemin. Combien de fois j'ai envie de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que Dieu va faire d'ici, demain, dans 10 ans. Ah, mais ça, j'ai tellement envie de connaître ça. Non. Il me donne mon pain quotidien. Il éclaire mon chemin d'aujourd'hui. Et apparemment, c'est suffisant. Est-ce que j'accepte ça? Est-ce que vous êtes prêts de suivre la Bible comme une lampe, mais qui donne jour après jour juste ce qu'il faut? Parce que c'est ce que la Bible dit d'elle-même. C'est une lampe à mes pieds, une lumière pour mon chemin. Mais je connais pas exactement ce qui va se passer demain. Mais je sais avec la parole de Dieu, l'Esprit qui travaille en moi, Dieu peut guider mes pas. Et chers amis, j'espère que ce soir c'est votre cas. Donc, si tu peux remettre la lumière. Voilà donc. Bon, je vais laisser, hein. Bon, j'espère que ça fait pas de mal. Et donc, dans tout ce que je vous ai présenté ce soir, tout est accessible avec Internet, avec des livres. J'allais amener 2 livres d'archéologie biblique, mais je les ai oubliés à la maison. Mais bon, peut-être demain matin, je peux emmener ça. Mais en fait, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai pris juste le temps pour creuser, pour voir les choses. Et ça m'a tellement aidé de mieux comprendre les paroles de Dieu. Vous pouvez faire pareil. Bon, j'allais mettre, et j'ai oublié, Marc Perez, c'est l'Archéos. C'est ça, le site. Archeos.org, Mais vous tapez l'archéologie biblique et c'est un site web avec des douzaines de vidéos qui parlent de ces choses-là. Pas toujours dans l'idée de donner un sens au passage, mais pour vous aider, pour mieux comprendre. Mais faites l'application vous-même. Ce n'est pas quelque chose qui est pour les grosses têtes ou pour les experts de la Bible. C'est vraiment les choses qu'on prend pour mieux comprendre la Bible. Donc, je vais terminer par la prière, mais merci infiniment pour être venu, pour écouter ces choses-là. Aussi, tout ce qui est ici, c'est toutes les choses que j'ai découvert moi-même lors des recherches, et vu que c'était dans les premiers 10 centimètres, ils ont dit, bah, tu prends ça dans la poche et comme ça, tu peux avoir quelques artefacts. Et donc, là, c'est un morceau de verre qui date du temps de Jésus, c'est le verre que les Romains ont fait. Ici, j'ai pas mal de manettes, des choses pour les vases, les éclats. Donc, venez toucher, mais c'est juste garder ça dans chaque morceau de papier. Et tout ça, j'ai acheté ça pour à peu près 3 € dans un magasin à Jérusalem. Donc, c'était vraiment la joie de trouver. Donc, c'était fait par les Juifs à Jérusalem. Mais bon, c'est des répliques, c'est pas des choses du vrai. Voilà, donc, on va prier. On te remercie, Seigneur, pour toi, pour ta parole, mais aussi, Seigneur, on te remercie qu'aujourd'hui, la terre parle de toi. Seigneur, tu permets aux scientifiques, tu permets, Seigneur, aux archéologues de trouver des choses qui correspondent à ta parole. Donc, Seigneur, ce soir et pour tout, Seigneur, on ne veut pas faire juste les exercices mentaux. On n'est pas ici, Seigneur, pour avoir la grosse tête. Seigneur, on veut que tu travailles dans le cœur de chacun de nous. Donc, rappelle-nous, Seigneur, de toutes ces vérités. Dirige-nous, Seigneur, chaque instant de nos vies, et on est reconnaissant, Seigneur, que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière à nos chemins. Seigneur, guide-nous. Amen.